Tu nous lis une histoire d'aventure, s'il te plaît.
Moi, j'ai une histoire n'importe laquelle, mais s'il te plaît, une histoire. Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec du suspense. Beaucoup de suspense.
Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec plein de magie. Encore une histoire.
Encore une histoire.
Encore une histoire.
Les histoires n'attendent que vous pour être lues. C'est le slogan de l'association Lire et faire lire.
Des lectrices vous présentent leur coup de cœur en littérature de jeunesse et espèrent titiller votre curiosité. À vous d'en partager le plaisir avec les enfants.
Vous retrouverez ces présentations de livres sur le blog de Lire et faire lire. https://lire-et-faire-lire-sans-espace.laligue10.org et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast.
Momo, petit prince des bleuets de Yaël Hassan chez Syros. Quelle surprise ce matin-là, après Noël, de retrouver parmi mes cadeaux cette réédition venue de ma grande petite fille Mila, avec qui je partage souvent mes lectures. Donc c'était un grand plaisir de retrouver cet hymne à la lecture et à l'amitié, un plaisir que j'ai envie de partager avec vous. Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la Cité des Bleuets. Des bleuets, cité des bleuets, sans bleuets ni jardin. Mais un jour, aidé par son ancienne directrice, car il va entrer en sixième, et ses sœurs, il s'inscrit à la bibliothèque, muni d'une longue liste, et se met à lire avec passion. Un jour, sur son banc refuge, il rencontre Monsieur Édouard, instituteur à la retraite, un peu extravagant, mais ensemble, ils ont de grands projets. C'est un roman bien écrit, touchant, à partager avec nos plus grands lecteurs autour de 10 ans, un auteur peut-être à redécouvrir, et aussi cette collection Tempo de chez Syros. Ce soir-là, Fatima arriva avec un grand sac de l'hyper. « Tiens, c'est pour toi, » dit-elle à Momo. « C'est la rentrée des classes. » Au milieu de la cuisine, Fatima, Yasmina, Momo et la mère sortent une à une les affaires du grand sac en poussant de joyeux « Oh, oh, il y a tout ce qu'il faut pour la sixième !» et même un nouveau pantalon et une belle chemise à carreaux. Mais tout au fond du sac, il y a encore un autre paquet. Un paquet cadeau avec une grosse fleur en ruban doré. Momo ouvre le paquet sans rien déchirer. Et il en sort un livre, « Vendredi ou la vie sauvage » de Michel Tournier. C'est le livre numéro 2 de Madame la directrice. Sur la page de garde de son nouveau livre, Momo écrit de sa plus belle écriture son nom et son prénom. Et dessous, il écrit un grand « 1 », comme dans les livres. Sauf que pour lui, ça veut dire autre chose. Un jour, j'en aurai autant que dans la bibliothèque municipale, pense-t-il, en s'endormant vite pour être à demain. Le lendemain matin, Momo repart pour la butte, son nouveau livre sous le bras. Mais en arrivant, il voit quelqu'un d'autre qui s'y trouve déjà, sur son banc en plus. C'est un vieux monsieur avec un chapeau de paille, des cheveux blancs en queue de cheval. Un qui n'est pas dans la cité. Sans doute qu'il s'est perdu et qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Momo respire un grand coup et va s'asseoir à l'autre bout du banc. Après tout, les bancs sont faits pour être assis à plusieurs. Le vieux monsieur lit un livre et ne regarde même pas Momo, qui s'installe près de lui. Alors Momo ouvre son livre. C'est l'histoire de Robinson qui échoue sur son île déserte à la suite d'un naufrage. Au bout d'un moment, le vieux monsieur, qui n'a fait rien d'autre jusqu'à présent que de tourner les pages de son livre, tout saute. « Oh, excuse-moi, jeune homme, mais je n'avais pas remarqué ta présence à mes côtés. »« C'est pas grave, ça m'arrive à moi aussi. » « Oh, mais tu es un grand lecteur !» remarque le vieil homme en hochant la tête. Puis, soulevant son chapeau, « Monsieur Édouard, ancien instituteur à la retraite, pour vous servir, jeune homme. » Momo se lève à son tour. « Momo des Bleuets !» dit-il. « Enchanté, Momo. Et si on parlait littérature ?» Momo ne répond pas. Il ne sait pas trop ce que ça veut dire, littérature. En lisant ce livre, poursuit patiemment Monsieur Édouard, vu que c'est un ancien instituteur qui doit avoir l'habitude qu'on ne comprenne pas tous ses mots. Tu t'es senti proche du petit prince? Tu t'es pris pour lui? Oh non, s'exclame Momo, c'est pas possible ça, je n'ai pas du tout la tête qu'il faut. T'en as déjà vu, toi, monsieur Édouard, des petits garçons comme moi, avec un nœud papillon et qui ont des têtes de petits princes? Parfaitement, mon ami. J'en connais des tas de princes qui ont une tête semblable à la tienne. Et il y en a même un qui porte ton prénom. Dis donc, le roi Mohamed du Maroc. Qu'un roi porte son nom en entier? Mohamed? Ça, c'est vraiment trop fort! Il n'y a pas d'obstacle à ce que tu deviennes prince. Prépare-toi, Momo. Et monsieur Édouard tresse avec les branches de la haie une couronne, puis se prend d'une grande branche qu'il donne à Momo comme un sceptre. Voilà, nous sommes prêts. Mets ton genou à terre et baisse la tête. Et Momo s'exécute sans broncher. Moi, Édouard, ancien instituteur de la République à la retraite, je te fais, toi, Momo, petit prince des Bleuets. Il lui dépose alors sa couronne tressée sur la tête et lui dit « Relevez-vous, votre Altesse, que vos volontés soient désormais faites. Je suis votre grand chambellan. » Momo est scié. Jamais il n'a vu de français plus ouf que celui-là. Donc, pour nos grands et puis pour tout le monde, pour le plaisir de retrouver Momo, petit prince des Bleuets, et son amitié intergénérationnelle avec Monsieur Édouard.
Peur à peur, de Chiara Mezzalama, illustré par Maria Chiara Di Giorgio, aux éditions des Éléphants. La couverture de l'album, à montrer aux enfants avant même de commencer la lecture, nous plonge dans le vif du sujet. Sur la première de couverture, un visage de fillette, deux grands yeux effrayés, entourés d'ailes et de têtes de pigeons. Sur la quatrième, un pigeon qui semble harcelé par des mains d'enfants. Les deux premières pages du texte commencent par la même phrase. Vous penserez que j'ai de la chance, j'habite à Venise. L'une est prononcée par la petite fille, l'autre par le pigeon. Et à partir de là, se déroule un récit à deux voix, une double narration qui nous permettra de comprendre les sentiments de l'enfant et de l'oiseau. D'un côté, une enfant qui a peur des pigeons, de l'autre, un pigeon qui a peur des enfants. Une peur aussi grande, ça s'appelle une phobie. La fillette et l'oiseau vont d'ailleurs nous en donner la définition.
Mais j'ai peur des pigeons, et à Venise, il y en a partout des pigeons. Ce n'est pas une peur normale, comme celle du noir ou du grand méchant loup. Non, mon père dit que c'est une phobie. J'ai vérifié dans le dictionnaire. Phobie, crainte angoissante et injustifiée d'une situation ou d'un objet. Aversion très vive pour quelqu'un ou quelque chose. Imaginez, une peur multipliée par 100. Et ce n'est pas qu'un mot dans le dictionnaire. La phobie provoque bouffée de chaleur ou sueur froide, hyperventilation, augmentation du rythme cardiaque, vertige, insomnie. Tous ces mots difficiles pour dire que quand je croise un pigeon, mon cœur se met à battre comme un tambour affolé. C'est comme si tout l'air sortait de mes poumons, comme si quelqu'un m'attrapait par les pieds et me secouait, et que tous les mots tombaient par terre et que je n'arrivais plus à parler. C'est très gênant pour un enfant d'avoir une phobie. Moi, j'ai peur des enfants. Et à Venise, il y en a plein partout des enfants. C'est pas une peur normale comme celle du gel gluant ou du grand méchant faucon pèlerin. Le vieux pigeon installé sur la statue du Colléone, connu pour être un sage, m'a dit que c'était une phobie, une peur instinctive et injustifiée de quelqu'un ou quelque chose. Injustifiée ? Les enfants ne m'aiment pas. Ils m'appellent rat du ciel. Ils me courent après et me donnent des coups de pied dès que je m'approche. J'entends parfois leurs parents dire que j'apporte des maladies. J'avoue que ma réaction est incontrôlable. Quand je croise un enfant, mes plumes s'ébouriffent, mon bec devient si sec que je n'arrive plus à recouler. Je perds mon sens de l'orientation et mes formidables talents olfactifs. Et surtout, je n'arrive plus à voler. C'est très dangereux pour un pigeon d'avoir une phobie. Cette alternance de points de vue se comprend aisément car les pages de chacun des personnages se répondent avec des premières phrases identiques, des débuts de lignes qui se renvoient l'un à l'autre et des illustrations qui facilitent l'identification du personnage. La narratrice décrit parfaitement ce que ressent la fillette. C'est arrivé un soir d'automne. Je rentrais de l'école un peu fâchée contre moi. Habituellement, je fais toujours attention à ne pas me retrouver dans la cour avec des pigeons. J'invente même des excuses pour rester en classe à la récré. Mais ce jour-là, mes copines ont insisté et je suis descendue dans la cour. J'ai joué avec elles et c'était chouette parce que je ne pensais plus du tout aux pigeons. Jusqu'au moment où un copain s'est approché et m'a chatouillé avec une plume. Et là, je n'ai rien pu faire. La phobie a envahi mon corps. Je me suis mise à trembler et j'ai dû aller me cacher à l'infirmerie. Les autres ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire des blagues comme ça. Sauf que pour moi, c'est pas une blague. Sur le chemin du retour, il était là, en plein milieu de la rue. Un gros pigeon gris, comme s'il m'attendait. À l'autre bout de la ruelle, le canal où je prends le vaporetto pour rentrer chez moi. J'étais piégée. J'ai commencé à trembler. « Allez, pigeon, s'il te plaît, laisse-moi passer. » Bien sûr, l'oiseau, lui aussi, ressent cette panique. Et à partir de cet instant, le format des illustrations change. Jusque-là, on avait une double page consacrée à chacun des protagonistes avec une image à gauche et le texte à droite. Tout à coup, l'image s'étend sur les deux pages. La petite fille complètement à gauche, le pigeon complètement à droite, l'un en face de l'autre, sur le même quai de Venise. Le texte est sous l'image et on ne sait même plus qui le dit. Alors, on fait quoi ? On fait quoi quand on a si peur qu'on n'arrive plus à rien faire ? Qu'on ne peut plus ni bouger, ni respirer, ni réfléchir, ni demander de l'aide ? On fait quoi quand on a peur de succomber à la peur ? Les deux sont obligés de s'observer et chacun reconnaît dans le regard de l'autre sa propre terreur. L'arrivée d'un gondolier qui chante faux va rompre le charme et leur permettre de se croiser. Mais le problème n'est pas réglé. Qu'en sera-t-il de leur prochaine rencontre ? Demain, peut-être. Les autrices abordent avec des mots simples et avec de magnifiques illustrations une situation que peuvent vivre certains enfants. Elles font ensuite au lecteur des propositions pour les aider à comprendre, à apprivoiser, à surmonter cette peur panique. Le troisième protagoniste de l'album, c'est Venise, évidemment. Venise, bien choisie puisqu'elle regorge de pigeons. Les aquarelles sont magnifiques et permettent de visualiser la ville dans ses tons ocres et ses couleurs de soleil couchant, avec ses ponts, ses escaliers, ses gondoliers, ses vaporetti, ses monuments. Les enfants ne connaissent sans doute pas Venise, mais justement, c'est l'occasion de découvrir.
Tu nous lis une histoire d'aventure, s'il te plaît.
Moi, je veux une histoire n'importe laquelle, mais s'il te plaît, une histoire. Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec du suspense. Beaucoup de suspense.
Moi, ce que je voudrais, c'est une histoire avec plein de magie.
Encore une histoire.
Encore une histoire.
Encore une histoire.
Les histoires n'attendent que vous pour être lues. C'est le slogan de l'association Lire et faire lire.
Des lectrices vous présentent leur coup de cœur en littérature de jeunesse et espèrent titiller votre curiosité. À vous d'en partager le plaisir avec les enfants.
Vous retrouverez ces présentations de livres sur le blog de Lire et faire lire. https://lire-et-faire-lire.la-ligue-10-10 en chiffres.org et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast.
Vous écoutez Thème Radio sur 90.3 FM en DAB et thèmeradio.fr.